Chers amis auditrices et auditeurs, bonjour. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle étude de la Bible dans cette leçon de l'école du sabbat.
Bonjour, chers amis. Nous voici maintenant à l'étude de la quatrième leçon de ce trimestre, leçon qui correspond du 17 au 23 janvier 2009 et qui a pour titre « Le don de prophétie et l'Église du reste ». Nous commençons par un premier texte qui nous est proposé. En colère contre la femme, le dragon s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui portent le témoignage de Jésus. C'est un texte de l'Apocalypse, chapitre 12 et verset 17. Quelques questions clés au début de cette semaine. Que représentent les symboles d'Apocalypse 12 ? Quels événements historiques peuvent être considérés comme l'accomplissement de ce chapitre ? Que signifient les expressions « le témoignage de Jésus » et l'esprit de prophétie? Eh bien, c'est ce que nous allons voir au cours de cette semaine. La notion de reste apparaît pour la première fois à propos de Noé et de sa famille. Puis, on la retrouve au cours de l'histoire d'Israël. L'apôtre Paul mentionne lui aussi un reste composé à son époque de Juifs ayant accepté Jésus et qui est devenu par la suite le noyau de l'Église chrétienne primitive. Dans le livre de l'Apocalypse, il est parlé du reste de l'Église de Thyatire et de Sardes, mais également d'un reste évoqué plus particulièrement au chapitre 12 et qui fera l'objet de notre étude de cette semaine. Le reste fidèle de Dieu n'a pas toujours été visible. En effet, Dieu a eu de tout temps des fidèles dans les différentes religions, d'où l'appel « Sortez du milieu de Babylone, mon peuple ». Mais l'Apocalypse donne une description particulière de ceux qui appartiennent au reste fidèle à Dieu dans les derniers temps. Maintenant cette étude, et nous commençons par le dimanche 18 janvier 2009, qui a pour titre « Le bien contre le mal ». Et là, il s'agit d'une première partie de cette étude « Le bien contre le mal ». Nous allons lire dans le livre de l'Apocalypse quelques versets que nous trouvons au 12e chapitre de l'Apocalypse, les versets 1 à 6. « Un grand signe apparut dans le ciel, une femme revêtue du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur la tête. Elle était enceinte et elle criait dans le travail et les douleurs de l'enfantement. Un autre signe apparut dans le ciel, et voici un grand dragon rouge qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint debout devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant dès qu'elle l'aurait enfanté. Elle enfanta un fils, un mâle, qui doit faire paître toutes les nations avec un sceptre de fer. C'est ce que dit le texte. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit au désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. Ce texte d'Apocalypse 12 présente le grand conflit cosmique entre le Christ et Satan sous une forme symbolique. Il y décrit son déroulement depuis l'époque du Christ jusqu'au temps de la fin. Au verset premier, Jean a une vision éblouissante. Une femme enceinte, vêtue du soleil, qui avait la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Cette apparition est pour lui comme un grand signe, ce qui veut dire que cette femme n'est pas seulement une femme, mais elle symbolise l'Église ou le peuple fidèle de Dieu. Son aspect rayonnant fait penser à Jésus, le soleil de justice. D'après Apocalypse 12 et verset 6, pour échapper au dragon, la femme fuit au désert où Dieu prend soin d'elle pendant 1260 jours. De quoi est-il donc question ici et que symbolisent ces 1260 jours? Nous trouvons les réponses à cette question dans le livre du prophète Daniel, et nous lirons tout d'abord au chapitre 7, le verset 25. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Il espérera changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Nous avons encore deux autres textes tirés du livre de l'Apocalypse, tout d'abord au chapitre 12, verset 14. Alors, les deux ailes du grand aigle furent données à la femme pour s'envoler au désert, vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Un autre texte, Apocalypse 13, verset 5, il lui fut donné une gueule qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes, et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Jusqu'au XIXe siècle, la plupart de ceux qui étudiaient la prophétie utilisaient le principe d'un jour égale un an. C'est pourquoi ils pensaient que les 1260 jours se référaient à la période de persécution de l'Église à partir du Moyen Âge et durant une période de 1260 ans. Non sans raison, car premièrement, si les symboles qui apparaissent dans ce passage ne devaient pas être pris dans leur sens littéral, pourquoi l'élément « temps » devait-il l'être ? Deuxièmement, les diverses expressions utilisées dans le livre de Daniel et l'Apocalypse pour traduire la durée, un temps, des temps et la moitié d'un temps, ou alors 42 mois, 1260 jours, ne correspondent pas à la façon habituelle d'exprimer une durée littérale de 3 ans et demi. Pour ces raisons, et d'autres encore, les adventistes du septième jour croient, contrairement à la plupart des chrétiens actuellement, qui situent eux la période de persécution entre 168 et 165 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire à l'époque où Antiochus Épiphane, monarque syrien, a mis fin pendant environ 3 ans au sacrifice du temple de Jérusalem. Donc que les 1260 jours équivaudraient à 1260 ans et font référence à la période de suprématie papale depuis le VIe siècle jusqu'à la fin du XVIIe siècle. Eh bien, poursuivons cette étude. C'est la deuxième partie de cette étude sur le bien contre le mal. C'est le lundi 19 janvier 2009. Et voici le contenu de cette journée. Au milieu du récit arrive la parenthèse d'Apocalypse 12, versets 7 à 12, qui évoque la révolte de Satan au ciel et son bannissement sur la terre. Le texte nous donne un aperçu des origines du grand conflit qui a bouleversé l'univers. Les allées et retours entre le ciel et la terre montrent à quel point ce qui se passe dans l'un a un profond impact sur ce qui se passe dans l'autre. Nous sommes réellement au cœur d'un combat cosmique. Le texte d'Apocalypse 12, versets 13 à 17, reprenant le récit interrompu au verset 6, décrit en termes symboliques la persécution de l'Église chrétienne, d'abord par l'Empire romain, puis par l'Église romaine apostate. Dans ces versets, on voit de l'eau comme un fleuve qui symbolise des armées persécutrices envoyées contre le peuple de Dieu. De son côté, Apocalypse 12, verset 16, évoque une terre qui porte secours à l'Église persécutée. C'est en 1620, en effet, que les pères pèlerins, fuyant la persécution en Europe, sont arrivés sur le continent américain. Sur cette terre découverte récemment, ils ont trouvé un refuge où les troupes des puissances européennes ne pouvaient les atteindre. Ainsi, de façon symbolique, ce continent nouveau a englouti les armées persécutrices. Apocalypse, chapitre 12, verset 17, évoque la période qui suit les 1260 jours, qui se sont terminées à la fin du XVIIIe siècle. Satan, voyant qu'il ne réussit pas à anéantir le peuple fidèle de Dieu, s'en prend à un petit groupe particulier, le reste de sa descendance ou le résidu de la semence de la femme. Nous allons voir maintenant, en lisant Apocalypse 12-17, quelle est la première caractéristique de ce reste particulier et en quoi les textes suivants vont nous aider à comprendre ce que sont les commandements de Dieu. Voici donc ce texte, Apocalypse 12, verset 17. « Le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. » Nous avons encore quelques textes que nous allons lire maintenant. Dans Éphésiens chapitre 6 et le verset 1er dit ceci, « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. » Un autre texte dans l'épître de Jacques, chapitre 2, versets 9 à 11. « Mais si vous vous livrez à des considérations de personnes, vous commettez un péché, vous êtes convaincu de transgression par la loi. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable envers tous. Celui qui a dit « Ne commets pas d'adultère » a dit aussi « Ne commets pas de meurtre ». Or, si tu ne commets pas d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. » Un autre texte dans l'Épître de Jean, chapitre 3 et verset 4. « Quiconque commet le péché commet aussi une violation de la loi, et le péché, c'est la violation de la loi. » Dieu n'aurait pas pu s'exprimer avec plus de simplicité. Ce reste de la fin des temps se distinguera avant tout par le fait qu'il gardera ses commandements, tous ses commandements, et notamment le sabbat du septième jour. Voici quelques lignes à méditer en terminant cette journée du lundi. Sommes-nous convaincus que Dieu nous a appelés à garder ses commandements? Comment en être certain? Comment répondre aux arguments généralement avancés contre l'observation des commandements, et en particulier contre celui qui concerne le sabbat. Réfléchissons à ces questions, essayons d'y trouver des réponses grâce à la parole de Dieu et à l'étude de cette semaine en particulier. Nous sommes maintenant le mardi 20 janvier 2009, et là il s'agit de voir en quoi consiste ce que l'on appelle le témoignage de Jésus. La seconde caractéristique de l'Église du reste, c'est qu'elle porte le témoignage de Jésus, une expression mentionnée 6 fois dans le livre de l'Apocalypse. Voyons ce que signifie ce témoignage dans quelques textes que nous vous proposons maintenant. Donc nous allons lire dans le premier chapitre de l'Apocalypse, tout d'abord les 2 premiers versets, oui. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Celui-ci a comme témoin annoncé la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Un autre texte, au même chapitre, mais le verset 9. « Moi, Jean, qui suis votre frère et qui prends part à la tribulation, à la royauté et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. » Un autre texte dans Apocalypse, chapitre 19, les versets 9 à 10. « L'ange me dit, écris, « Heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. » Puis il me dit, « Ce sont les paroles véritables de Dieu. » Et je tombai à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, « Garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. » adore Dieu. Le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Et un autre texte tiré du livre de l'Apocalypse, chapitre 20, et le verset 4. Je vis des trônes. À ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui étaient morts sous la hache à cause du témoignage de Jésus et de la parole de Dieu. Grammaticalement, cette expression peut avoir deux interprétations possibles. Soit le témoignage que les hommes rendent au Christ, soit la révélation que Jésus fait de lui-même, son propre témoignage. L'étude du mot témoignage dans les écrits de Jean montre que chaque fois que ce terme apparaît dans une construction grammaticale, identique à celle qui figure dans l'Apocalypse, il se réfère toujours au témoignage de Jésus sur lui-même. En revanche, la notion de témoignage au sujet de quelqu'un est systématiquement exprimée par une autre construction grammaticale. Dans le livre de l'Apocalypse, l'expression « témoignage de Jésus » doit être donc comprise comme étant le témoignage que Jésus rend de lui-même, et non celui que le reste rendrait de lui. C'est ce qui ressort de l'analyse des textes même de l'Apocalypse. Ainsi, dans Apocalypse 1, verset 2, Jean a « témoigné de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ ». Ici, la parole de Dieu fait référence à ce que Dieu dit, tandis que le témoignage de Jésus-Christ, mis en parallèle, est simplement ce que Jésus dit, c'est-à-dire le témoignage qu'il rend sur lui-même. Il en est de même pour Apocalypse 1, verset 9, et dans ce passage, Jean se présente et nous indique les sources de son autorité. Il dit aussi qu'il se trouve sur l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Le parallélisme entre ces deux expressions est là encore évident. Si l'on suit le principe de l'interprétation des Écritures par les Écritures, tous les textes du livre de l'Apocalypse où apparaît l'expression « témoignage de Jésus » se rapportent invariablement au témoignage que Jésus porte sur lui-même. Voici ce qu'il en est du témoignage de Jésus. Nous allons maintenant voir dans la journée du mercredi 21 janvier 2009 l'esprit de prophétie. Et nous avons un premier texte, toujours dans l'Apocalypse, chapitre 19 et verset 10. « Car c'est le témoignage de Jésus qui est l'esprit de la prophétie. » Or, ce verset est le seul de toute l'Écriture où les termes « esprit de prophétie » apparaissent. Voyons ce que signifie cette expression. Nous allons lire dans l'épître de Paul aux Corinthiens, donc la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 12, et nous allons lire les versets 8 à 11. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre des dons de guérison, par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses sortes de langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Le parallèle le plus direct qui puisse être établi dans la Bible avec l'expression « esprit de prophétie » se trouve dans ce texte où Paul évoque le rôle du Saint-Esprit. Celui-ci accorde entre autres don, le don de prophétie, et la personne qui le reçoit est appelée prophète. Par ailleurs, de même que dans 1 Corinthiens 12, verset 28, ceux qui ont le don de prophétie sont appelés prophètes. De même, dans Apocalypse 22, verset 8 et 9, ceux qui ont l'esprit de la prophétie sont appelés prophètes. Nous allons lire quelques extraits maintenant de Apocalypse 19 et Apocalypse 22. Voici ce que dit le premier. « Je tombai à ses pieds pour me prosterner devant lui. Mais il me dit, garde-toi de faire cela. Je ne suis que ton compagnon d'esclavage et celui de tes frères qui portent le témoignage de Jésus. Prosterne-toi devant Dieu, car c'est le témoignage de Jésus qui est l'esprit de la prophétie. » C'était Apocalypse 19, verset 10. Voyons maintenant Apocalypse 22, 8 et 9. « Je suis tombé aux pieds de l'ange pour me prosterner devant lui, mais il me dit, garde-toi de faire cela. Je ne suis que ton compagnon d'esclavage et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre, prosterne-toi devant Dieu. » Dans ces deux passages, la situation est la même. Jean tombe aux pieds de l'ange pour l'adorer, et l'ange, en l'arrêtant, utilise des mots presque identiques. Pourtant, la différence entre les deux réponses est très importante. Dans Apocalypse 19, verset 10, les frères sont identifiés par le membre de phrase qui dit « qui porte le témoignage de Jésus ». Tandis que dans Apocalypse 22, verset 9, les frères sont simplement appelés prophètes. Si l'on s'en tient au principe d'interprétation de l'Écriture par l'Écriture, cette comparaison nous conduit à la conclusion suivante. L'esprit de la prophétie d'Apocalypse 19, verset 10, est le don de prophétie qui est accordé non aux membres d'Église dans leur ensemble, mais seulement à ceux qui ont été appelés par Dieu à jouer le rôle de prophète. Ce n'est pas là une interprétation purement adventiste. Le luthérien Hermann Stratmann dit au sujet des frères qui portent le témoignage de Jésus, d'après le parallèle que l'on trouve dans Apocalypse 22, verset 9, les frères ne désignent pas les croyants en général, mais les prophètes. S'ils ont le témoignage de Jésus, ils ont l'esprit de la prophétie, c'est-à-dire que ce sont des prophètes. C'est extrait du dictionnaire théologique du Nouveau Testament. Ainsi s'achève cette journée sur l'esprit de la prophétie. Nous allons maintenant voir le jeudi 22 janvier 2009, nous allons voir ce qu'est l'Église du reste. L'Église du reste. À partir de cette étude, nous pouvons comprendre que dans Apocalypse 12, verset 17, le reste de sa descendance fait référence à l'Église restante de Dieu, bien visible, que l'on peut reconnaître à deux caractéristiques précises. Premièrement, ses membres gardent les commandements de Dieu, ce que Dieu a donné sur le mont Sinaï. Deuxièmement, il porte le témoignage de Jésus, c'est-à-dire l'esprit de la prophétie ou le don prophétique. Le mouvement adventiste, observateur du sabbat, bien avant qu'il ne s'organise en 1863, a toujours revendiqué ces signes d'identification. Nous gardons les 10 commandements, y compris le sabbat du 7e jour, et nous croyons qu'en tant qu'Église, nous avons le témoignage de Jésus, c'est-à-dire que Dieu s'est manifesté dans la vie et l'œuvre d'Ellen White. Ainsi, l'Église adventiste du 7e jour n'est pas simplement une Église parmi d'autres, elle a été annoncée par la prophétie. Dieu l'a appelée à l'existence dans un but précis, c'est-à-dire la proclamation des messages des trois anges à un monde qui est en train de mourir. Et nous allons lire justement ce qui se passe ici, et qui va nous aider à identifier certaines des caractéristiques du peuple de Dieu de la fin des temps. Nous trouvons ces textes dans Apocalypse chapitre 14, et nous allons lire plusieurs versets, donc des versets 6 à 12. « Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, tribu, langue et peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et prosternez-vous devant celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. un autre ange, un second ange, suivit, disant « elle est tombée, Babylone la grande, qui a fait boire à toutes les nations du vin de la fureur de son inconduite. » Un autre, un troisième ange, les suivit en disant d'une voix forte « si quelqu'un se prosterne devant la bête et son image, et reçoit une marque sur le front ou sur la main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. La fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui se prosternent devant la bête et devant son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints qui garde les commandements de Dieu et la foi en Jésus. » En tant qu'adventistes du septième jour, nous avons la conviction que nous appartenons à l'Église du reste. Cependant, le fait de nous identifier à l'Église du reste ne nous autorise pas à penser que nous avons un statut privilégié devant Dieu. On peut faire partie du reste et être perdu en tant qu'individu. Le salut n'est aucunement garanti par l'appartenance à une Église, quelle qu'elle soit. Nous sommes sauvés à titre personnel et non en tant qu'Église. Faire partie de l'Église du reste est un grand privilège et implique une grande responsabilité parce que notre vocation est sacrée. Mais cela ne nous garantit pas le salut, pas plus que le fait d'être hébreu dans l'ancien Israël. Bien voilà, nous avons étudié la journée du jeudi 22 janvier 2009, c'était l'Église du reste, et nous terminons cette semaine avec quelques citations le vendredi 23 janvier 2009. Et voici ces citations tirées d'un ouvrage en particulier qui s'intitule « Ce que croient les adventistes ». À la page 222, voici ce que nous lisons. « La prophétie fait partie des dons du Saint-Esprit. Ce don est l'une des marques distinctives de l'Église du reste et s'est manifestée dans le ministère d'Ellen White. Les écrits de cette messagère du Seigneur sont une source constante de vérité qui fait autorité et procure à l'Église encouragement, directive, instruction et répréhension. Il stipule que la Bible est le critère auquel il convient de soumettre tout enseignement et toute expérience. » L'étude de la notion de reste dans l'Ancien Testament fait ressortir un certain nombre de caractéristiques intéressantes. L'une des plus importantes est sans doute celle que l'on retrouve tout au long de la Bible. Le reste se compose de ceux qui ont reçu davantage de lumière que les autres. Noé a été averti de l'arrivée du déluge. Abraham a reçu la révélation du véritable Dieu. La nation d'Israël adorait le Seigneur dans le sanctuaire, alors que ses voisins païens sacrifiaient des enfants sur leurs autels ou se prosternaient devant les statues de chats, de taureaux ou autres. En bref, la notion de reste est davantage liée à une révélation, révélation de ce qu'est la vérité, révélation du caractère de Dieu, qu'à la sainteté de ceux qui possèdent cette connaissance particulière. Où voulons-nous en venir ? Comme nous l'avons exprimé dans la leçon de jeudi, faire partie du reste signifie seulement que l'on a reçu une grande lumière et que cela implique de grandes responsabilités. Cela ne veut pas dire que l'on est automatiquement sauvé, ni que ceux qui ne font pas partie du reste sont perdus. L'histoire sacrée nous révèle malheureusement qu'un grand nombre de ceux qui ont appartenu au reste, suscités par Dieu, non seulement n'ont pas réussi à vivre selon les connaissances reçues, mais se sont souvent rebellés contre elles. Eh bien, pour terminer cette semaine, voici encore quelques lignes à méditer. Prétendre appartenir à l'Église du reste peut sembler prétentieux et élitiste. Pourtant, n'est-il pas logique que Dieu se soit réservé un peuple particulier, porteur d'un message spécial pour les derniers temps? Eh bien, une question encore à méditer en conclusion de cette étude. Merci d'avoir étudié attentivement avec nous et nous vous donnons rendez-vous à la semaine prochaine.
C'était votre leçon de l'école du sabbat. Merci et à bientôt. Que Dieu vous bénisse et Jésus revient.